Bonjour et bienvenue sur No Limit Sécu, le seul podcast francophone hebdomadaire dédié à la cybersécurité.
On gagne une réponse.
C'est quand même pas mal pour un numéro 2, je trouve.
Donc, aujourd'hui, un épisode dédié aux Assises. Donc, nous enregistrons à Monaco. Nous avons la chance, le plaisir de participer à cet événement. Donc, les contributeurs No Limit Sécu sont Nicolas Ruff.
Bonjour.
Hervé Chauvet.
Bonjour.
Vladimir Collat.
Bonjour.
Jérôme 16.
Bonjour.
Et nous recevons des petits jeunes qui viennent de commencer dans le podcast. Nos amis du comptoir Sécu.
Salut.
Alors, il y a Justin Galivet.
Bonjour.
Morgane Portier.
Autonnier, mais c'est pas grave. Bonjour.
Parce que t'es jeune encore, c'est pour ça.
Loïs Samin.
Bonjour.
Et Yuen Piolet.
Salut.
Donc, en introduction, nous allons diffuser une interview de Gérard Rio, qui est le fondateur des Assises. Gérard Rio, bonjour.
Bonjour.
Donc je pense que tous nos auditeurs connaissent les Assises.
J'espère. Mais bon, soyons modestes, il y a encore plein de gens qui vont les découvrir.
Alors, comment est venue l'idée de créer cet événement unique ?
Alors rapidement, c'est souvent les grandes stratégies du hasard qui font les vrais produits ou les vraies bonnes idées. C'est pas de moi, c'est de Jobs. On avait une belle boîte d'événementiel axée à high-tech, pour la faire courte. Mais on était en 97-98 et on se posait des questions sur l'évolution, le fameux bug de l'an 2000. Et ma femme, qui est une femme de pub, elle, hein, Celsa, etc., etc., me dit où est-ce qu'on va aller ? Est-ce qu'on s'oriente sur la gestion, les financiers, etc., etc., en termes événementiel, bien sûr, ou sur d'autres secteurs ? Alors j'ai dit, moi, les financiers, c'est pas des gens gay, quoi. Donc ça va être un peu tristou, ça va pas aller avec mes gènes, ça. Il y a un truc qui a l'air de sortir un peu des sentiers battus, c'est la sécurité des systèmes d'information. Donc j'ai commencé à gratter. Comme j'avais un passé international, c'était plus facile d'avoir, entre guillemets, les infos du bon moment. Et puis on s'est lancé un peu par hasard, un peu à l'aventure, dans ce qui est la grande histoire des Assises. Et l'année 1, on était 17 sponsors et 144 personnes en tout, y compris mes potes. L'année 2, on était 22 sponsors et 252 ou 3 visiteurs. Et puis après, il y a eu un tout petit phénomène qui s'appelle Internet. On avait démarré à Deauville, c'est devenu trop petit. On est arrivé là à Monaco il y a 11 ans. Et aujourd'hui, on est 160 sponsors et de l'ordre de 2500-2600 personnes.
Alors, le format était quand même particulier. Est-ce que ce format existait ailleurs ou
Non. Je crois qu'on a inventé trois choses. On a inventé la rencontre d'affaires en B2B et en one-to-one. On a inventé un esprit de communauté qu'on a créé. Moi, quand j'ai démarré, il y avait 80 RSSI en France. Hein. Rien que là, j'ai 1250 RSSI, DSI, DSSI, Risk Manager, j'en passe. Et j'ai pas tout le monde. Et parce que j'en ai déjà refusé rien que 250 de plus cette année, quoi, pour vous donner un ordre d'idée. Mais bon, je crois que le networking qu'on a mis en place, la philosophie d'échange, de confrontation, mais surtout la qualité qu'on a mis dans les mains de nos partenaires et de nos visiteurs, était une vraie première. Les Américains sont surpris, me disent « faites-nous la même chose aux États-Unis ». Les Allemands nous disent « faites-nous la même chose en Allemagne, on le fera l'année prochaine ». Les Anglais nous disent la même chose « on attaquera 2018 ». Bon,
et
ça y
US,
est. Pardon ?
Les US, bien.
Alors les US, on n'est pas prêt. Enfin, moi, je suis pas prêt pour trois raisons. D'abord, parce que mine de rien, j'ai plus 20 piges. Et je vais laisser ça aux gens qui vont se faire un plaisir de me succéder dans les 3-4 années qui viennent. Donc là, je vais m'occuper du territoire européen. D'abord, parce qu'on mange mieux en Europe qu'aux États-Unis. Mais non, je plaisante. Parce que je pense qu'il faut du sang neuf et que je vais trouver la personne qui va s'en occuper.
D'accord. Alors, quand on est un offreur de services ou un éditeur de logiciels, pourquoi est-ce qu'on se doit de participer à cet événement ?
Alors, on n'est pas devenu the place to be ou le référent de l'industrie sécuritaire par hasard. On est aujourd'hui, hors événement propriétaire, le plus important événement au monde. Je rappelle qu'on est un événement franco-français à la base et que la langue usuelle est le français. Je suis très fier de ça. On est aujourd'hui reconnu par les grandes autorités. Le SGDN, secrétaire général de défense nationale, était là il y a 2 jours. les ministres divers sont là, il y a de plus en plus de personnalités worldwide qui viennent et qui reconnaissent la qualité des assises pour faire qui une annonce stratégique mondiale, qui une annonce technologique, qui un partenariat, qui je ne sais pas quoi. Le deal entre Thales et Cisco a été officialisé en conférence de presse hier matin ici. Et tout ça fait bien évidemment la contribution à la qualité des assises. Mais surtout, ce qui fait la vraie richesse des assises, c'est les gens qui la constituent. Et la, les gens qui les constituent, il y a trois grands groupes. Il y a bien évidemment les utilisateurs, parce que si vous n'avez pas d'utilisateurs, le sponsor est fait d'ailleurs. Il y a les partenaires sponsors. Et puis, il y a tout ce qui est les médias, les experts, les lawyers, etc. etc. Et tout ça arrive à vivre dans une bonne intelligence. Donc tout ça mis bout à bout, ça contribue à un truc qui est successful, mais qui est améliorable, et qui s'appelle les assises de la sécurité.
Merci Gérard. Donc, alors, messieurs, votre retour sur les assises. Jérôme, est-ce que tu peux nous parler, par exemple, de la conférence d'ouverture ?
La conférence de Guillaume Poupard et Thierry Delville, c'est ça ?
Tout à fait.
Oui, je peux en parler, bien sûr.
Tu as participé à cette conférence.
Non, alors mon intervention était très limitée puisque je me contente de récupérer des questions qui ont été posées par Internet par les membres de la communauté des Assises et du Cercle européen de la sécurité. Donc l'idée, c'est que plutôt que de faire une grande foire aux questions dans cet amphithéâtre énorme, on pose les questions à l'avance. Les gens vont remonter leurs questions par email. On centralise tout ça. On distille les questions parce que beaucoup de sujets sont à peu près les mêmes, mais formulés très différemment souvent et pas toujours en français. Et ensuite, on pose ces questions-là à l'issue de la conférence. Voilà. Donc mon intervention est vraiment très limitée là-dessus.
Alors, les keynotes, les conférences sont disponibles en vidéo. Les gens peuvent aller les regarder.
Tout est podcasté.
Tout est podcasté. D'accord. Ok.
Même les ateliers ? C'est uniquement les...
Les ateliers sont podcastés, sauf lorsque les intervenants s'y sont opposés.
D'accord.
Ok. Alors, qu'est-ce que vous avez aimé dans cette conférence ?
Le discours de Poupard était bien, mais à la limite égal à lui-même, comme chaque année. C'est très bien. C'est dans la continuité de ce qu'il avait dit l'année précédente. Et puis il a une façon de parler qui fait que ça capte l'attention et il a des petites images très rigolotes. J'ai adoré son histoire de coulis de coquillage et verroterie. Il est très bien, mais voilà.
Enfin, l'image du médecin urgentiste était sympathique aussi. Hein.
Alors tu peux préciser que l'histoire du coquillage et la verroterie, c'est qu'il a dit que des éditeurs étaient venus voir l'ANSSI en pensant qu'ils allaient se faire certifier automatiquement, comme à peu près la quasi-totalité des labels et des certifications, et qu'il suffisait d'apporter de la verroterie pour amadouer l'ANSSI, et ils ont vite déchanté.
Bon, ça s'appelle des goodies chez nous, y en a qui aiment ça. Hein.
Le mot magique.
Plus sérieusement, sur la conférence d'ouverture, il faut dire aux auditeurs que Guillaume a rappelé... la souveraineté, la volonté d'avoir quelque chose un jour à l'échelle européenne. Enfin voilà, les grands principes habituels de la NSSI.
Et puis, il a bien résumé ça en disant tout simplement qu'avant, c'était la phase de build classique, c'est ce qu'on utilise comme terme en entreprise. C'est la phase de build avec toutes les lois, etc. Et que là, on est quasiment sur la phase de run. On arrive sur la phase de run de tout ça.
Et ce qui est aussi intéressant, moi, ce que j'ai remarqué, c'est qu'il a réaffirmé que pour lui, le chiffrement était nécessaire et obligatoire, ce qui est contraire un peu à un discours un peu étatique en ce moment. Donc c'est bien qu'il ait osé redire « moi je suis pour le chiffrement, il faut du chiffrement ». Quoi.
Le chiffrement est un facteur de paix.
Et de croissance économique. Mmh. Il faut aussi noter qu'il est intervenu, il a partagé son temps de parole avec Thierry Delville, qui est à la délégation ministérielle aux industries de sécurité. Et ça, c'est intéressant à noter, ça veut dire que l'ANSSI a un rôle de protection vis-à-vis donc des OIV et ensuite plus largement vis-à-vis des gens lorsqu'elle a le temps, vis-à-vis des autres des entreprises lorsqu'elle a le temps. Et là, on a une autre initiative du gouvernement qui consiste à essayer de fédérer le discours entre le public et le privé et les gens qui fabriquent des solutions de sécurité. Et ça, c'est intéressant de savoir que le gouvernement s'intéresse aux gens qui fabriquent ces solutions-là aussi, pas pour les réglementer, pas pour les contrôler, mais simplement pour essayer de favoriser une véritable filière industrielle sécurité française.
Et ce que je trouve aussi intéressant, c'est qu'en fait, donc, il a pris aussi l'intérim de la tournerie, c'est ça ? Donc en fait, il a aussi cette mission de s'occuper, donc je ne sais plus le nom exact, c'est la délégation cybermenaces, contre les cybermenaces
Ça doit être ça.
Ouais, c'est un truc à peu près comme ça. Donc c'est intéressant qu'il ait les deux casquettes, justement. Bon, après, c'est intérim, mais bon, on ne sait pas qui va remplacer, mais voilà.
Enfin, le discours était quand même un peu plus... policier, on va dire.
Oui.
Il faut nettoyer l'Internet.
C'est bon, un peu choquant, des fois. De voir.
Là, il faut savoir qu'après la plénière, il y a également eu une conférence de presse où on a pu participer également. Donc il a résumé finalement ce qu'il a dit lors de la plénière. Et il a surtout plus saison un petit peu avec quelques échanges, notamment sur pêle-mêle 3-4 sujets, notamment donc, la fameuse affaire TV5 Monde également. Et s'ils ont pu finalement voir l'activité de ces personnes-là présumées dans le temps, ils se sont rendus, d'après les retours finalement sur les différentes sondes qu'ils ont, ils ont retrouvé des signatures qui correspondent à TV5 Monde pour d'autres attaques. Apparemment, la fameuse attaque sur le Bundestag pourrait avoir un lien avec ces mêmes personnes. Donc on voit que c'est quand même un groupe qui a l'air assez actif. Il s'est aussi un peu étendu sur... il a rappelé également sa position sur le
chiffrement. Il a rappelé que l'attribution était relativement complexe et que même si dans deux attaques, un même outil avait été utilisé...
Voilà, il y a plein de raisons qui peuvent justifier ça sans que ce soit les mêmes personnes.
Ça peut être Mimikatz,
c'est toujours difficile avec les attaques informatiques, c'est que c'est très difficile d'identifier les personnes qui sont de l'autre côté et potentiellement ça peut être plusieurs groupes qui partagent les outils de prise de position, on va dire. Et il a parlé également, il a rappelé son soutien pour le chiffrement et expliqué que lui, il défendait sa position auprès du gouvernement, à savoir que il faisait son rôle de conseiller et que pour lui, tout ce qui va être une porte dérobée, même légale, même très encadrée, est pour lui un grand danger parce que ça crée forcément une faiblesse qui pourra être exploitée par des mauvaises personnes par la suite.
Surtout quand
ce qui fait plaisir à entendre.
Surtout ce qui est important de préciser, c'est ce qui est intéressant, c'est son parcours avec son métier précédent où il s'occupait justement de la crypto dans.
On a quelqu'un qui sait de quoi il parle. C'est-à-dire que c'était un grand orateur, mais c'est aussi quelqu'un qui a les compétences techniques et qui, du coup, ne fait pas que répéter ce qu'on lui conseille, mais simplement a un avis assez prononcé sur le sujet. Et un dernier point, il a été un peu piqué par des personnes expliquant que l'ANSSI recrutait beaucoup ces dernières années et un peu, entre guillemets, volait le vivier de compétences français auprès des entreprises privées. Auquel il a répondu que de toute façon il n'avait pas honte de recruter des gens pour l'État entre guillemets et que il participait un petit peu à améliorer la situation dans le sens où on avait des gens très compétents mais qu'on n'avait pas cette capacité de production auprès des différentes écoles et que en contrepartie ils mettaient leur pierre à l'édifice avec notamment Cyberédu et Secnumédu qui sont d'une part un moyen de former les enseignants au sujet de la SSI et à notre part qui permet de définir des programmes de sécurité informatique.
C'est pas plus mal
En tant que représentant une entreprise qui est celle qui a d'après eux-mêmes le plus d'anciens à la NSSI, moi je suis pas du tout d'accord. La NSSI est très raisonnable dans ses recrutements. Regardez bien, la NSSI a toujours fait attention de ne jamais dépouiller en quelque sorte le moindre acteur privé. Et donc même si bien entendu ils ont besoin de beaucoup de compétences en sécurité, ce ne sont pas du tout eux qui pillent le marché français. Je trouve qu'on devrait beaucoup plus s'intéresser aux très nombreux Français qui sont partis dans des grandes entreprises internationales ou qui ont fui en Australie. Et là, il y a peut-être un problème beaucoup plus profond en France que la NSSI.
Tu n'as pas parlé de la Suisse. Tu voulais intervenir.
Oui, il y a aussi un aspect positif, je pense, au rôle de l'ANSSI dans ses recrutements. Il y a longtemps de ça, j'ai enquêté en Israël sur le beau sujet qui était pourquoi les Israéliens sont les champions de la sécurité. Voilà, c'était il y a plus de 10 ans. Évidemment, la vision idyllique et simpliste, c'était parce qu'ils font tous leur service militaire et donc ils deviennent tous des spécialistes. C'est évidemment plus complexe que ça. Et l'une des réponses était parce que effectivement, durant leur passage sous le drapeau, ils avaient l'occasion de rencontrer beaucoup de monde, de se former un petit peu, de travailler ensemble. Et lorsque tous ces gens-là, au bout des 3 ans ou plus de leur service militaire, quittaient leur engagement, ils avaient un réseau super fort. Et lorsque l'un d'entre eux montait une société, avait une idée, il était capable d'aller taper dans ce réseau-là pour avoir des compétences immédiatement. Et toute proportion gardée, on peut imaginer que l'ANSSI, dans ses recrutements, qui recrute, à mon sens, plutôt en début de carrière, très souvent, c'est assez junior les recrutements de l'ANSSI, peut avoir cet effet positif. C'est-à-dire qu'on va avoir toute une génération de jeunes experts, de jeunes ingénieurs qui seront passés par l'ANSSI, qui auront travaillé ensemble et qui ensuite vont essaimer. Ils seront plutôt formatés bleu-blanc-rouge. Je sais que ça ne va pas forcément plaire à tout le monde, mais en tout cas, ils auront un cadre qui leur aura été donné. Ils auront certaines valeurs communes et ils auront un réseau en commun. Et je pense que ce n'est pas une mauvaise chose.
Oui, et pour compléter aussi, moi, par rapport à des amis que j'ai concrètement à l'Annecy et la vision qu'ils ont, parce qu'ils sont en train d'évoluer depuis quelques années là-dedans, en fait, ce qui en ressort aussi, c'est qu'on me dit, c'est que l'Annecy, c'est public, ça paye quand même moins que des sociétés. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que quand les sociétés veulent recruter, ils recrutent des gens qui sont sortis d'Annecy, donc qui ont été formés par quand même des gens assez compétents. Et donc, il y a une évolution comme ça du vivier qui monte en compétences, qui passe par l'Annecy et qui ressort et qui est plus expérimenté, quoi.
Je pense pas qu'en France on manque de clubs, de coteries, d'associations, des réseaux. C'est matriciel, comme on dit aujourd'hui dans l'entreprise. Hein.
Non, mais qui font des choses concrètes quand même, parce que là, l'Annecy bosse quand même dans les autres clubs. Je sais pas si tout le monde bosse vraiment, quoi.
troll. Non,
juste. Schauer, tu voulais réagir.
En tant que membre de tous ces clubs, oui, il y en a où on travaille vraiment, on produit des documents qui aident le marché. Je t'invite à regarder ne serait-ce que les publications du Clusif.
Je reviens juste sur ce que tu as dit par rapport à Israël et soi-disant le champion de la sécurité. Je pense qu'il y a deux différences qui sont flagrantes et qui ne sont pas les mêmes en France. C'est qu'un, c'est un pays en guerre. Et deux, ils ont accès au marché américain qui n'est pas le même que le marché français. Et que nous, on est quand même limité au marché franco-français. Et forcément, ça limite.
Je suis entièrement d'accord. C'était la conclusion justement de mon enquête. C'était que le passage sous le drapeau n'est pas le facteur premier et capital. Le facteur premier, c'est que effectivement, le marché local est juste trop petit pour être viable. Donc, ils pensent immédiatement à l'exportation. Alors que nous, en France, on est encore un peu trop tourné vers « j'ai envie de réussir en France. Quand j'aurai bien blindé la France, je vais réussir ». Et la le deuxième facteur aussi, effectivement, c'est donc le corollaire, c'est que de toute façon, ils ne peuvent pas vendre au prix de leurs voisins immédiats. Hein, ça ne va pas marcher. Donc, ils partent aux États-Unis tout de suite. Et le deuxième facteur, c'est qu'il y a eu un apport d'ingénieurs déjà formés lorsque l'Union soviétique, le mur est tombé. Ils ont eu un apport immédiat d'ingénieurs très formés qui ont pu être opérationnels tout de suite, en fait.
Alors, pour revenir aux assises et plus particulièrement à la conférence de Guillaume Poupart, il a également mentionné un point qui est notable, c'est que l'ANSSI ne sera plus obligé de dénoncer les gens qui découvrent des vulnérabilités béantes et donc ces gens ne seront plus poursuivis. Alors, il faut toutefois noter que ces vulnérabilités découvertes devront l'être de manière fortuite. C'est-à-dire que ne vous mettez pas à faire du pentest sauvage, vous ne serez pas couvert par... Alors, je ne sais pas si c'est un décret ou...
Alors, apparemment, la loi, alors je ne sais pas laquelle a été modifiée, il a parlé de l'article 40. En fait, c'est le texte qui oblige toute administration à dénoncer lorsqu'elle observe la commission d'un
fonctionnaire. C'est à titre individuel, si tu es agent de l'État, tu dois dénoncer les crimes et délits auxquels tu assistes.
Exactement, voilà. Et donc là, elle a une exemption spécifique sur ce point-là.
Et la ligne à dépasser sera vraiment... Enfin, il faudra être prudent parce que y a la loi Godefroy qui existe toujours, bien entendu, et donc on ne peut pas permettre d'essayer d'exploiter une vulnérabilité et lorsqu'on se fait attraper, dire qu'on comptait la déclarer auprès de l'ANSSI.
Mais ce que ça veut dire, c'est que l'ANSSI va remplacer le protocole d'alerte de Zataz, c'est ça?
Ouais, je pense que les deux ont largement le temps de cohabiter avant que que l'ANSSI ait pris son régime de croisière dans ce domaine-là. Zataz est quand même là depuis très longtemps.
Alors, qu'est-ce que vous avez bien aimé d'autre dans cette édition des Assises, cette 16e édition?
Alors, j'ai assisté à un gros lol quand même, et ça, il faut en parler, c'est génial. Marc Béard de XAMCO, bienveillance, avait mis dans ses slides, les slides de son atelier, avait essayé de modéliser qu'est-ce que le web d'une manière générale et ses sous-ensembles que sont le dark web, le deep web, etc. Donc le fond de la presse était très intéressant parce qu'il disait enfin pour une fois le dark web en tant qu'entreprise vous en foutez, c'est beaucoup de bullshit et c'est une problématique étatique et pas d'entreprise. Donc lorsqu'on vous vend de la veille sur le dark web, globalement on vous escroque. Il n'a pas dit ça comme ça, hein, je le reprends dans mes propres mots. Mais donc en gros pour définir ça, c'était cette notion de web en tant qu'ensemble et de sous-ensemble. Il avait mis dans ses slides une équation mathématique bidon évidemment puisque marketing, mais une belle équation parce que ça fait joli de mettre les choses en équation sur des slides. Et là, on a vu sa gorge se serrer lorsqu'il a vu Cédric Villani venir s'installer au premier rang de son atelier.
Donc le mathématicien, c'est ça ?
Le fameux mathématicien Medal Field 2010. Et donc lorsqu'il est arrivé à la dite slide où il a dû expliquer son équation, pour moi c'était un des highlights des assises et je crois que je garderai l'idée, le souvenir de sa voix avec la gorge qui se serre comme ça en disant alors là c'est une intégrale.
Moi, ce que j'ai préféré, c'est justement la keynote, enfin la présentation de Patrick Villani.
Cédric
Villani.
Patrick n'a pas pu venir.
De Cédric Villani, voilà. Il a essayé de faire un parallèle entre les mathématiques et la cybersécurité. Bon, c'était parfois un peu limite.
Mais parce que justement, il est à la Commission européenne représentant de la France pour l'attribution des budgets de recherche en cybersécurité. Donc il a un pied dedans. Et c'est curieux qu'ils aient pris un mathématicien et pas quelqu'un du CERAI justement pour ce genre d'activité.
Il est aussi important, parce que justement on discute en off, surtout avant on a parlé justement de préciser que quand on vient aux assises, donc là nous on est avec un badge journaliste certain, il y en a qui ont un badge intervenant, c'est quoi exactement?
Un partenaire, voilà. C'est-à-dire quand tu es exposant, tu as un badge qui ne permet pas d'accéder aux ateliers des autres exposants.
Donc c'est ça que tu ne peux pas aller à tous les ateliers et toutes les conférences. Quoi.
Mais j'ai appris que les journalistes ne pouvaient même pas aller à tous les ateliers.
Oui, c'est arrivé pour nous sur un des exposés. En l'occurrence, c'était donc une entreprise qui avait également un client en tant que retour d'expérience. Et on imagine que l'entreprise n'avait aucune... animosité contre la presse, au contraire, ils aimeraient bien avoir de la couverture, mais j'imagine que le client ne voulait pas avoir son retour d'expérience
dans un
article de journal.
Un OIV en plus. Donc
c'est encore pire, les journalistes ne peuvent pas participer à certains tirages au sort pour que les goodies aient plus d'intérêt.
Loïs, quid des autres confs?
Moi, je vais juste revenir sur un atelier, enfin quelque chose qui m'a vraiment séduit, c'est Logpoint France, concrètement, qui a fait en fait un atelier qui était extrêmement intéressant, parce qu'en fait, pour une fois, ils ont le commercial marketing a parlé 2 minutes, littéralement. C'est-à-dire que concrètement, il a juste expliqué son produit, qu'est-ce qu'il fait, etc. Et après, pendant 45 minutes, 50 minutes, il y a le RSSI en fait, de Kasdan Bank Populaire, qui en fait a fait un retour d'expérience, mais à 100 langues de bois concrètement. C'est-à-dire qu'en fait, il a comparé les différentes solutions qu'il a pris. Donc il a pris Splunk, Radar concrètement, et puis il a expliqué pourquoi il le prend, pourquoi il le prend pas, les arguments, et puis il a expliqué tout ça. Et vraiment, ce qui est agréable, je trouve, dans mes conférences, c'est que qu'on n'a pas juste un discours marketing, etc., en mode on est les meilleurs, venez acheter nous, etc., mais vraiment un retour d'expérience, quelqu'un qui dit moi j'ai pas marché, etc., et ça fait du bien, ça fait vraiment du bien.
Oui, mais enfin, dis-nous tout. La conclusion, c'est que Logpoint est supérieur à Splunk et Curadar. Moi personnellement, en tant qu'expert, j'avais plus tendance à recommander Splunk et Curadar que Logpoint.
En fait, ça joue beaucoup sur la facturation déjà. C'est-à-dire concrètement, Splunk c'est la volumétrie, et Logpoint concrètement c'est l'IP. Donc voilà, donc déjà c'est une version différente, et après voilà, il y a toute une... De toute façon, on va pas développer, je pense, tout le truc, on en parlera en off, je pense, mais...
Ce que tu peux en conclure, c'est que pour les besoins de cette personne-là...
Oui, bien sûr, c'est expliqué justement ce raisonnement, ce qu'il disait bien, quoi. C'est le côté raisonnement qu'il explique, et cette démarche qui, moi, me...
C'est tout l'intérêt du retour d'expérience, c'est quand ça, il est argumenté,
Après, à toi de voir si tes besoins correspondent aux siens ou pas.
Exactement.
Mais quand même, je trouve... Enfin, je sais pas si c'est une tendance de fond, parce que je vais pas souvent aux assises, mais... Cette année, il y avait beaucoup plus de keynotes en anglais et beaucoup plus d'ateliers en anglais, j'ai l'impression. Enfin, maintenant, c'est les patrons US, par exemple sur la keynote Thales, en fait, c'était le patron de Vormetric qui a fait la keynote. Donc, il est venu à San Francisco et il a parlé en anglais. Je ne sais pas si... Parce que les assises, pour moi, c'était quand même un peu le showroom du produit français.
C'est la rançon du succès,
ça
peut-être.
Ça devient RSA Conference, quoi.
C'est la rançon du succès, mais le problème, c'est
surtout qu'à Monaco, tu peux te permettre de faire venir un Américain, puis l'Américain, ça lui fait plaisir de venir à Monaco.
Et c'est sans doute plus classe
d'avoir une conf avec un Américain en anglais qui, lui, a été éduqué tout petit à jouer à l'acteur.
C'est vrai.
Alors, cette année, quelles sont les grandes tendances?
Pour revenir très rapidement, moi, je pense qu'ils ont mal parlé d'IoT, et c'est une des choses qui m'énerve, parce qu'ils ont parlé tout le temps d'IoT, mais même sans en parler. Ils ont dit oui, donc dans le monde maintenant, il y a les Internet of Things qui arrivent, et au final, leur conf porte pas du tout là-dessus, mais c'est le buzzword du moment, donc du coup, il faut en parler. Et un autre truc aussi que j'ai trouvé qui manquait cruellement, c'était les conférences sur la sensibilisation en elle-même. Je crois que tu tapes leur recherche sensibilisation, tu as deux conférences, deux ateliers sur les... vu qu'il y en a 8 il y en a 8 chaque heure. Là je suis assez mauvais en maths, donc
on fera le calcul, t'inquiète.
Il y a plus de 100 conférences. Sur 100 conférences, il y a 2 sur la sensibilisation qui me paraît être un sujet qui est capital maintenant, et qu'il faut arrêter d'essayer de nous vendre des boîtes qui disent que ça va tout fonctionner, alors que derrière il faut des humains, il faut des gens qui comprennent, il faut des gens qui soient sensibilisés.
J'ai pas l'impression, enfin moi j'ai pas ressenti de vraiment thématique globale, parce qu'il y a 2 ans c'était le DDoS, l'année dernière c'était à fond sur le SOC, Et cette année, j'ai vraiment pas ressenti une thématique précise.
Un parti, on va dire.
Un règlement général des données personnelles, quand même, je trouve que c'est un sujet qui commence. Moi, par exemple, c'est un truc qui m'intéressait et j'ai vu qu'il y a eu 4-5 conférences, parce que concrètement, c'est le bordel. Enfin,
ouais, mais 4-5 sur la centaine,
voilà. Ouais, mais c'était les données personnelles, c'est un truc tellement petit, enfin, tellement petit, c'est important quand même, mais voilà, c'est que, enfin, il n'y a jamais eu autant de parler de données personnelles. Je vois toutes les boîtes essayer d'expliquer à leur façon, il y a des avocats qui sont invités, etc. et tout, pour essayer de donner une vision, parce qu'on est un peu perdu pour l'instant, c'est juste qu'on on a encore quelques années pour l'appliquer, mais bon. Et moi, c'est, moi, par exemple, c'est un truc que je trouvais vraiment qui était beaucoup plus émergent que d'habitude, quoi.
Moi, j'ai eu le sentiment, en tout cas, de voir un certain grand écart entre eux. Vous savez, c'est toujours une histoire de balancier. Donc, un coup, tout le monde pense que la technique va nous sauver la vie. L'autre coup, tout le monde pense que c'est l'orga qui va nous sauver la vie. Puis, à chaque fois, ça revient. Et cette année, j'ai essayé de voir dans quel côté du balancier on était pour m'orienter. Je suis un garçon d'habitude, donc il faut que je sache... où nous sommes, et j'ai eu du mal, et j'ai l'impression que cette année, il y a une espèce de grand écart entre, on veut pousser la gouvernance de la cybersécurité, donc monter vers les CODIR, la direction, c'est le cas du livre de Palo Alto qui veut parler aux dirigeants, mais en même temps, on est vraiment dans le dur, il y a des solutions qui, du comportemental, de l'anti-malware, des choses sur les postes de travail. Alors c'est peut-être aussi le retour du poste de travail que j'ai remarqué, on a compris que pareil, c'est toujours
ça
s'appelle de balancier.
Le endpoint maintenant.
Le endpoint, pardon. Mon âge, mon grand âge. Là aussi, c'est un autre balancier. Hein. On met tout sur le réseau, on met tout sur le endpoint. Voilà. Donc là, on est plutôt, apparemment, je vois beaucoup de endpoint, d'anti-malware. Bon, merci les ransomware. Merci. Donc pour moi, la tendance, j'ai ressenti une espèce de grand écart un peu douloureux entre on veut parler au CODIR et en même temps, on veut faire de l'anti-malware.
Un grand écart, ou est-ce que le balancier, justement, il n'est pas au milieu entre les outils et les hommes ? Est-ce que les gens ne se sont pas rendus compte maintenant qu'il faut effectivement des hommes et qu'il faut aussi des outils ?
Je parle encore de grand écart parce que j'ai pas vu vraiment d'approche ou de vrais modèles qui permettent de faire le lien de manière fluide entre les deux. Mais bon, peut-être que j'ai pas tout vu non plus. Hein.
J'ai un sentiment un peu inverse, c'est marrant, parce que j'ai l'impression qu'au final, pour faire simple, tout le monde est paumé. Et que alors je vais essayer de ne pas citer une phrase qui est déposée à l'INPI par une des personnes ici présentes, mais j'ai l'impression que tous les gens sont paumés, les gens cherchent des solutions, les gens se font compromettre, et personne n'arrive à trouver justement le juste milieu entre à la fois la technique, à la fois l'humain, à la fois la gouvernance. Et moi j'ai eu cette impression avec plein de gens qui sont passés sur notre stand, de gens qui cherchaient les solutions et qui n'en trouvaient pas.
Mais je crois que parce qu'aussi le problème s'est complexifié. Avant, tu cherchais à protéger ton PC qui surfait sur Internet. Maintenant, comme tu dis, bon, il y a les buzzwords IoT, cloud, machine learning, etc. Mais ça fait plein. En vérité, ça fait plein de sujets sur lesquels tout le monde est complètement perdu.
Alors, il y a une. Si on revient sur les conférences, les ateliers, Wavestone a un modèle intéressant sur le modèle de l'aéroport. Plutôt le modèle de la compagnie aérienne. Qui a le mérite de mettre des images un peu sur des notions et pousser peut-être la réflexion dans ce sens-là. Donc, je vous encourage à aller lire le sujet du simulateur de compagnie aérienne de Wavestone.
Ouais, bah après, tu peux modéliser dans tous les sens. Les organisations, les entreprises ne changent pas tellement. Donc, tu peux dire, il faudrait faire ci, il faudrait faire ça, la sécurité, il faudrait. Mais après. Restructurer, changer le fonctionnement interne de ton entreprise.
On reste dans l'intellectuel, là. Je suis d'accord.
Oui. La carte n'est pas le territoire, quoi.
Exactement.
Je vais rebondir sur un truc que tu as dit, Nicolas, au niveau des tendances. On parlait du cloud. Moi, je suis toujours un peu plus intéressé par les sujets système et réseau, puisque c'est mon métier. Et là, j'ai senti cette année, contrairement aux autres, une première approche, de une première présentation de notre métier qui est en train de se transformer radicalement. Donc je sais pas si on en parle suffisamment côté sécurité, mais on est en train de repasser sur un modèle où le service lui-même devient le cœur de l'infrastructure et non plus l'infrastructure elle-même. Et donc dans toute cette transformation, ça passe par des outils d'automatisation, d'orchestration, le modèle Docker ou le modèle cloud avec des instances. Et je trouvais jusqu'ici que sur les conférences sécurité en France, on en parlait que trop peu. Et cette année, j'ai réussi à trouver un certain nombre de conférences qui parlaient de SDN, du cloud, de ce genre de techno. Et j'ai trouvé ça très bien, même si on sent que c'est encore un peu hésitant et que peu de gens ont fait leur expérience là-dessus, quoi.
Alors moi, j'ajouterais une quatrième tendance. Hein. On a vu là trois grandes tendances, le règlement européen, comment se faire connaître et montrer les enjeux auprès de la DG, et puis cette évolution SDN, cloud. J'ai bien aimé la petite maquette en Lego sur le stand de Konix. Et donc, je rajouterai SCADA, parce qu'il y a quand même beaucoup de stands où on vous parle de sécurité industrielle. Ça devient beaucoup plus populaire que ce que c'était dans le passé.
Merci, Stuxnet.
Oui, mais clairement, il y avait pas que Konix. Il y a au moins 3 ou 4 stands où tu as des maquettes.
Centrio, notamment.
Oui, enfin, c'est juste que j'ai bien aimé celle-là. Je pense qu'il y a un ingénieur qui s'est bien amusé à faire une usine en Lego.
Sinon, pour les conférences, juste pour faire un petit écho avec ce qu'avait dit Loïs, il y a aussi des conférences où c'est purement la présentation de produits, mais c'est totalement assumé et ça reste des fois aussi intéressant. On n'a pas toujours l'occasion de les voir pendant notre quotidien au travail. Par exemple, moi, j'ai fait celle de HID hier qui présentait les nouvelles projets de cartes ou tokens d'authentification à sortir d'ici fin d'année ou début 2017. Mmh. Et notamment, il se base pas mal sur la nouveauté de Windows 10 qui permet de s'authentifier avec d'autres facteurs plus facilement, en tout cas de mettre des plugins sur la partie authentification avec Windows Hello. Et il propose notamment maintenant des tokens à base de Bluetooth qui permettront de se loguer, donc qui gèrent bien sûr le Deathfire, MyFair et autres choses pour se loguer de manière physique sur les portes, mais également qui gèreront le Bluetooth pour l'authentification en FIDO et qui permettra de se loguer sur son Windows, mais également en opportunité sur l'Android et même de l'iPhone, ce qui n'est pas possible avec le NFC parce que iPhone est très garde son précaré et n'autorise cette technologie que pour Apple Pay finalement.
Oui, Loïs.
Ce qui est souvent un gros problème.
Et justement, ce qui est intéressant par rapport à ce que tu rejoins, c'est qu'en vrai, c'est vrai qu'il y a aussi des conférences intéressantes pour les produits et par exemple pour les petites boîtes qui émergent ou justement ceux qui ont gagné le prix d'innovation, etc. Où c'était intéressant. Moi, j'ai vu une de conférences de sociétés que je connaissais pas qui ont présenté des solutions très bien et justement les prix d'innovation aussi qui ont gagné cette année. Donc c'est CryptoSense.
Ouais. CryptoSense. Tu veux en dire deux mots?
Je pense Morgane, honnêtement, je pense qu'il expliquera plus que moi.
En fait, donc on peut vite fait se rendre compte de ce qu'ils proposent de faire sur leur site web. Ils ont un outil où vous fournissez un nom de domaine. Ils cherchent les noms de domaine associés, donc les sous-noms de domaine type l'adresse MX, etc., les blogs. Et ils vont faire une analyse qui, pour moi, fait un peu penser à SSL Labs, c'est-à-dire une analyse de l'échange cryptographique, la configuration est bonne ou pas. Mais ils vont beaucoup plus loin. C'est-à-dire que il ne s'arrête pas uniquement à la configuration HTTPS, il regarde également la faiblesse des dénominateurs communs, avec un échantillon de certificats qu'ils ont également de leur côté, il regarde également les échanges en TLS pour les échanges de mails. Enfin, il ne s'arrête pas uniquement aux certificats sur le flux.
Alors, Jérôme, justement, il me semble que tu as participé à.
Tu fais partie du jury, tout à fait. Oui. Et alors, CryptoSense va plus loin que ça parce qu'ils ne font pas ça en boîte noire de l'extérieur, ils font ça aussi sur les applications développées en interne où ils auditent les librairies crypto et comment la librairie crypto a été implémentée et ils vont flaguer des vulnérabilités, enfin pas forcément des vulnérabilités mais en tout cas des erreurs d'implémentation courantes sur la longueur des clés, des choses qui sont réutilisées, des choses qui sont padées pas correctement, etc. Et donc vraiment ce qu'ils mettent en avant c'est ça, c'est le fait de dire mais vous déployez des outils, des Java, des choses comme ça, vous avez fait appel à une SS2I qui a mis comme d'habitude 3 juniors après avoir fait signer un commercial senior et les gars ont pris une librairie qu'ils comprennent pas, qu'ils maîtrisent pas, l'ont déployé sur votre application et il y a des vulnérabilités d'implémentation, des erreurs d'implémentation.
Franchement, Jérôme, loin de moi de nier l'importance de la cryptographie et les problèmes de son avenir avec l'informatique quantique. Mais est-ce que véritablement ça répond à une problématique du RSSI d'aujourd'hui? Est-ce que ça contribue à aider le RSSI?
Oui, déjà effectivement le RSSI a autre chose à faire, donc c'était une de nos réflexions, on s'est dit d'abord back to basics, il y a des choses plus importantes pour se faire entre guillemets poutrer qu'une librairie crypto qui a mal été implémentée. En revanche, pour toutes ces choses importantes, plus importantes à faire avant, il y a des tonnes de solutions. Pour auditer des librairies crypto mal implémentées, il n'y en a pas. Voilà. Donc
plus, faut le reconnaître, la crypto, c'est un domaine que quasiment personne ne comprend. C'est un domaine de mathématiciens. La plupart des gens ne se contentent de récupérer une fonction et de l'appliquer, savent pas comment ça marche, lisent bêtement les recommandations et essayent de les appliquer. Pour une fois qu'il y a un outil qui permet un peu de déchiffrer tout ça et de dire concrètement ce qui va ou ce qui ne va pas par un rapport d'expert un peu automatisé, c'est une bonne chose.
C'est un prix de l'innovation. Rappelons que dans le prix de l'innovation, il y a le mot innovation. Donc, il y a déjà des tonnes de solutions qui font des choses très bien, mais qu'une fait quelque chose de différent et de séduisant et quand même d'utile, on va plutôt aller vers celle-ci.
Alors j'ai une petite aparté, pour ceux que ça intéresse, CryptoSense était venu présenter ses solutions il y a 2 ans au Mardi de l'Ossir. Et donc pour ceux qui n'étaient pas aux Assises, la vidéo est présente sur YouTube, Donc si tu cherchais YouTube aussi, et CryptoSense, et on peut retrouver la vidéo. Alors elle date d'il y a 2 ans, donc je pense que leur produit n'était pas aussi évolué qu'aujourd'hui, mais ça donne une idée de, potentiellement de ce qu'ils font.
Oui, Louis.
Et est-ce que c'est intéressant de parler, parce qu'on parle beaucoup de CryptoSense, mais il y a le deuxième en fait, il y a le deuxième gagnant de prix d'innovation, qui est le prix d'innovation du public à peu près. Donc c'est la première fois, que j'ai l'OCR justement que c'était intéressant. Donc c'est 3D Trust qui a gagné, et qui a justement, c'est 3D Trust qui a gagné, qui avait justement une vision un peu différente, le côté vraiment innovation je trouvais, c'est qu'en fait ils s'occupent vraiment de l'impression 3D. En gros, si je me trompe pas, c'est comment certifier, comment
c'est du watermarking d'objets.
Ouais, voilà, comment intégrer, comment être sûr que quand on va faire une impression 3D, donc ils travaillent avec Airbus beaucoup, ça sera la bonne impression 3D, que certifie que c'est la bonne, que c'est le bon schéma et qu'il n'a pas été modifié, qu'il n'a pas été altéré. Donc honnêtement j'étais assez surpris de cette proposition pour le prix d'innovation, mais en fait c'est assez intéressant parce que c'est dans le futur.
Mais là, tu vois, c'est typiquement un problème du RSSI qui se retrouve à gérer des trucs. Enfin, l'impression 3D, est-ce que ça doit tomber chez le RSSI, ouais, quoi. Voilà, c'est le sujet où il connaît rien, quoi.
Ça a été notamment un gros débat que nous avons eu au sein du jury.
Est-ce que le watermarking, est-ce que le DRM, c'est de la sécurité?
Donc en tout cas de mon côté je suis vraiment toujours derrière ce choix, ces deux choix. Alors pour la mention du public, c'est le public qui choisit.
Tu pouvais rien justement.
Voilà, donc nous en tant que jury on a hésité, on a discuté, on a eu ce débat évidemment sur le fait de est-ce que cette solution de protection de l'impression 3D c'est quelque chose qui va impacter la vie des RSSI, dans quel sens, oui ou non. Donc on a eu ce débat là et on a voté pour CryptoSense, et là pour le coup je reste ferme engagé derrière ce choix.
Surtout que le prix du public, les autres, les autres candidats, c'était beaucoup moins. Enfin, concrètement, celui qui a gagné le prix du public, c'est celui qui avait le plus d'innovation, quoi. Enfin, c'était du watermarking sur l'impression 3D, on n'a jamais vu ça. Et après, c'est la réflexion, est-ce que le RSSI, c'est son périmètre, etc. Bon, ça, on verra dans le temps, je pense. Mais bon, voilà, quoi.
Je pense que le public réagit à des choses différentes de notre grille de lecture, mais c'est très bien.
J'espère qu'il watermark en utilisant la blockchain.
Sur le prix de l'innovation et le processus en tant que tel derrière. Donc le premier podcast français a fait un interview de cette personne hier matin. C'est disponible sur le site.
Ah oui, alors aux Assises, on a découvert que le comptoir Sécu était soi-disant le premier podcast français. Alors
étoile, avec une petite étoile.
Est-ce que vous pouvez nous en dire plus?
C'est une affiche donc qui cherche à sensibiliser les gens sur l'importance de lire correctement. Donc les discours publicitaires, il y a souvent une petite astérisque à côté, il est important de lire le texte en taille 6, en bas de page. Et donc effectivement, cette analyse a été faite, bien sûr, sans huissier, sur un panel représentatif, en tout cas à nos yeux, de 3 personnes fans du compteur sécu.
4 fans du compteur sécu.
Après, si tu regardes bien, dans tous les domaines, tout le monde est leader dans son domaine. Il y a toujours quelqu'un qui a le plus de quelque chose.
C'était un peu le pied de nez qu'on voulait faire.
Bon, et bien...
Les soirées, peut-être aussi, quand même, parce que les assises, c'est quand même un sujet...
Alors les soirées,
Loïs ? Les soirées, ça fait mal aux cheveux.
Pas pour moi, je me suis fait refouler du bout d'abord parce que j'étais en short.
De quoi?
Je me suis fait refouler du bout d'abord parce que j'étais en short, donc je me suis
fait. D'un autre côté, t'es en pantacourt, en short, avec un hoodie.
En plus, puis pour le stick et tout, voilà quoi. Non, mais franchement, je pense qu'on était tous là, mais c'est toujours les mêmes endroits, j'ai l'impression, les soirées, mais.
Toujours.
Mais c'est toujours, concrètement, c'est la nourriture à foison. C'est bien parce qu'on peut discuter avec les gens un peu à côté.
Le point marquant par rapport à l'année dernière, c'est qu'il a pas plu en fait. Pour une fois, on a pu profiter
un tout petit peu en fin de soirée hier.
Soir, quand
on va pas refaire la météo.
Non, mais par contre, un point intéressant.
Très structuré ce podcast. Hein. Il y a Miss Météo. Miss Météo avec un peu de barbe.
Ce qu'on peut dire sur l'innovation de la soirée, c'est que c'était retransmis en live avec des drones, deux drones qui survolaient le bay. Tu les as pas vus, les drones?
C'était magnifique. Non.
Si, il y avait des drones qui retransmettraient en direct.
Ah ouais? Ah oui, il y avait un drone, oui, c'est vrai.
Le problème, c'est que ce sont des drones classiques en Wi-Fi. Donc potentiellement, vous pouvez prendre la main dessus.
Et l'année prochaine, donc, il y a prévu évidemment une fusion avec Millipol, qui est organisée aussi par Comexposium, avec des exposants qui amèneront des solutions pour shooter les drones.
C'est ça.
Ben, vous savez que la solution pour shooter les drones, ce sont des aigles. Voilà, et l'armée a repris l'élevage d'aigles et l'éducation des aigles.
C'est juste.
Ça marche peut-être pas bien avec les drones Raptor, par contre. Hein. Sauf si tu rajoutes de modifications génétiques là-dedans. Mais...
Et en Russie, ils font les dauphins pour avoir les sous-marins. Chacun son style.
Très bien. Bon, eh bien, nous espérons que cet épisode vous aura intéressé. Et nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Au revoir.
Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.